je vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias. Là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement.
Eh bien bonjour, vous êtes dans l'actualité des luttes comme tous les jours de 12h30 jusqu'à 13h30 et aujourd'hui on va parler violence d'État, violence carcérale. On est avec Jenaba et Ami qui sont les sœurs d'Alassane Sangaré qui est mort à Fleury-Mérogis il y a 2 ans. Avant de commencer ces interviews, merci à vous d'être venus jusqu'à nos studios. On va remettre un petit peu dans le contexte puisque le nombre de détenus en France a encore augmenté pour atteindre un nombre record de 80 000 prisonniers. La France figure parmi les pires pays en Europe en termes de surpopulation carcérale, juste avant Chypre et la Roumanie. Les conditions de détention y sont infectes et la longueur des peines infaisable, les perspectives noires. Dans ce contexte, 125 prisonniers meurent en prison chaque année dans les établissements pénitentiaires de suicide ou de mort suspecte. Ces chiffres sont sûrement largement sous-estimés. Un ami, un camarade mort, Afen Ben Othman, disait « Il ne faut pas parler de suicide en prison ». Il faut dire que la prison tue. L'administration pénitentiaire est responsable de la sécurité des prisonniers qu'elle enferme, donc elle est responsable des morts qui peuvent advenir dans les prisons. Quand il y a un mort, c'est qu'il y a eu manquement, que ce soit par des coups de co-détenus, mais aussi par des coups parfois de matons, et aussi à cause du désespoir à en mourir. Le risque de suicide est 10 fois plus élevé en prison qu'à l'extérieur. Il est 40 fois plus élevé pour les femmes prisonnières. Le taux de suicide est 7 fois plus élevé au cours de la première semaine d'incarcération. J'avais fait une liste de prisonniers morts dans des conditions particulièrement suspectes, puisque des familles s'organisent et puis se battent pour faire connaître la réalité de ces morts. Et rien qu'en 2024, 2020, 2022 et en nouveau 2022, la liste est longue des prisonniers morts à l'intérieur dans des conditions plus que suspectes. Alassane Sangaré est un homme noir de 36 ans. Il est mort le 24 novembre 2022 dans des circonstances suspectes à Fleury-Mérogis. Sa mort, intervenue 5 jours après son incarcération, est officiellement attribuée à un suicide. Mais sa famille, sa mère et ses sœurs refusent cette version et mènent un combat acharné pour faire éclater la vérité. Elles dénoncent l'invisibilité des violences carcérales. Merci Ami et merci Djenaba d'être dans nos studios pour pouvoir en parler. Vous êtes les sœurs d'Alassane Sangaré. Donc peut-être pour commencer cette émission, on peut... Enfin, on l'a préparé ensemble. On se disait que c'était peut-être intéressant de voir comment, avant que cette histoire dramatique, horrible, vous tombe dessus, comment, avant, vous perceviez la prison ?
Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. On a vu une vision de la prison complètement... on va dire assez négatif déjà, et puis on s'y connaissait pas, hein, c'est le mot, hein, on connaissait pas la prison, nous n'avons pas été forcément confrontés directement à la prison, ni un entourage proche qui a été confronté, donc c'était un domaine inconnu pour nous, la prison. Et c'est vrai que dans notre imaginaire collectif, les personnes qui étaient en prison, c'est des personnes qui le méritaient et qu'elles étaient enfermées parce qu'elles avaient commis un délit et qu'elles payaient ce délit.
Toi, Ami, tu connaissais la prison ?
Alors, moi, pas du tout. Moi, franchement, c'était inconnu de mon esprit, de mon imaginaire. J'aurais jamais imaginé un jour...
Y être confronté, ouais.
Exactement. Donc, vraiment, je pensais ça totalement éloigné de nous. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on comprend. Et du coup,
on voyait complètement différemment.
Tout à fait. Vu qu'on a eu notre frère incarcéré pour une cause...
Ben on va y revenir, hein, voilà. Parce que dans pas mal de cas de morts suspectes, les raisons de l'incarcération sont vraiment tellement minimes. Finalement, la mort au bout, c'est vraiment particulièrement
c'est cher payé, on va
insupportable. Il faut quand même rappeler aux auditeurs que la grande majorité des prisonniers sont incarcérés pour des petites peines en France, hein, parce qu'on a toujours l'impression qu'on voit violeur, l'assassin, horrible, le monstre.
C'est ça.
Alors qu'en fait, c'est souvent des petits délits, hein, des outrages, des vols, conneries.
Et on peut rappeler aussi qu'un tiers des prisonniers sont en détention provisoire. Donc ils ne sont pas jugés, ils sont encore considérés comme étant innocents avant le jugement, et c'est le cas d'Alassane. Puisque lui n'avait pas été jugé, il était en détention provisoire. Donc il est mort 5 jours après et il est mort en étant innocent de cette histoire.
Pourquoi Alassane était incarcéré ? Parce que ça aussi c'est quand même vraiment intéressant. Mais quel crime avait-il commis ?
Un crime même pas de crime au final. Puisque,
un délit.
Un délit qu'il n'avait même pas commis pour les harceler littéralement par des plaintes, par des faits imaginaires, notamment du tapage d'urnes. Elle l'accusait de lui avoir crevé les pneus de sa voiture notamment. Et cette personne allait régulièrement porter plainte au commissariat de proximité. Mais elle connaissait une personne dans ce commissariat en question. Et ces plaintes étaient toujours prises en compte, sauf que à contrario, quand Alassane et sa femme, eux, allaient porter plainte pour harcèlement ou pour dénonciation de crimes imaginaires, là, leurs plaintes n'étaient pas prises en compte. Ils ont même dû envoyer un courrier au procureur de la République pour dénoncer les faits de ce commissariat en question, mais ils n'ont eu jamais aucun retour.
À la mairie aussi.
Et à la mairie, pour tenter une conciliation face à cette voisine et même auprès du bailleur. Mmh. Mais aucun retour, personne n'a pris en compte ces appels à l'aide, je dirais, en tout cas de la part d'Alassane et de sa femme. Mais comme je disais, toutes les plaintes de cette voisine en question étaient prises en compte, puisqu'Alassane était régulièrement convoqué dans ce commissariat pour répondre de ces questions. Il avait même pris un avocat. Il y a déjà eu un jugement dans lequel il a été complètement lavé de toutes les accusations qui ont été émises contre cette personne. Sauf qu'il y a eu une altercation en bas de leur résidence à laquelle Alassane n'a pas participé. Cette altercation a eu lieu entre cette voisine en question et ma belle-sœur. Et quand je vous dis qu'on peut affirmer qu'Alassane n'y a pas participé, parce qu'après son décès, on a trouvé les vidéos de cette altercation et c'est Alassane qui filmait, puisqu'on entend sa voix derrière. Donc il y a eu une altercation, les deux sont partis porter plainte, donc ma belle-sœur et cette personne. Mais comme d'habitude, c'est Alassane et ma belle-sœur qui ont été convoqués, et cette personne avait indiqué Alassane comme étant une personne qui lui avait donné des coups, alors que c'était faux. Ils sont partis porter plainte tous les deux. Soi-disant, il y aurait eu une enquête de voisinage de ce commissariat. On a appris après que c'était faux, puisque des voisins ont écrit des courriers pour affirmer qu'aucun policier n'était venu les voir. Voilà, c'est des éléments qu'on a encore dans le dossier. Alassane a été convoqué, a été placé en garde à vue, sa femme aussi. Alassane a été déféré directement au tribunal, enfin à la prison de Fleury-Mérogis. Sa femme, elle a été placée en contrôle judiciaire. Ben voilà, comme je l'ai dit, Alassane a été déféré directement en prison à Fleury-Mérogis.
Après une comparution immédiate.
Exactement. C'est, ouais, okay. C'est parce que c'est tombé un week-end. Ouais. Pourtant, Alassane y travaillait. Comme vous l'avez précisé, il avait 36 ans. Il était responsable de réseau à Bouygues Énergie et Services depuis 13 ans. Donc, nous, on n'a pas compris pourquoi tout de suite elle a été déférée. Puisque de toute façon, il
présentait des garanties.
Voilà, c'est ça, et il ne présentait aucune menace. On ne va pas dire qu'on n'a pas pris au sérieux, mais on s'est dit que ça allait être très, très rapide, puisqu'on a pris attache avec un avocat qu'il avait choisi. Et moi, j'ai échangé directement par SMS avec cet avocat pendant tout le week-end. Il me rassurait, il me disait, non, vous savez, il ne va pas rester. Votre frère présente beaucoup de garanties, il travaille. Sa femme, je vais la rencontrer, elle va me donner tous les documents et il va sortir rapidement. Sauf qu'Alassane est sorti, mais à travers
les pieds devant.
Voilà, exactement.
Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le jeudi, quand il a été convoqué, enfin quand la police l'a appelé, ils lui ont dit que c'était pour parler de sa plainte. C'est limite un piège qu'ils l'ont entendu. Mmh. Je pense que parce qu'il savait, et en général, il y allait toujours avec un avocat. Donc lui, en pensant qu'il s'agissait de sa plainte, il a été sans avocat et ils l'ont mis en garde à vue directement le jeudi. Je crois que c'était le 17 novembre, il me semble.
Donc là, on est quand même face à un conflit de voisinage.
Exactement.
Tout simplement, qui se termine finalement carrément par la case prison.
Exactement, tout de suite. Sans autre aménagement, parce qu'il existe effectivement des aménagements possibles.
Le contrôle judiciaire.
Voilà, c'est ça. Et non, c'était tout de suite la case prison pour un procès qui devait avoir lieu le 19 janvier. Alassane est mort 5 jours après. Il était au quartier des arrivants, donc il n'était même pas dans une cellule ou un étage avec d'autres détenus. Mmh. Il était tout seul dans sa cellule au quartier des arrivants et il est décédé 5 jours après.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce que vous êtes en train de dire, c'est la comparution immédiate. On voit dans quelles conditions les procès sont faits pour emmener des gens qui ont vraiment, enfin, qui sont dans le type de délit assez mineur, même j'ai envie de dire même pas de délit, enfin un conflit de voisinage, et qui incarcèrent quelqu'un pour des faits dérisoires. Donc ça, c'est une première chose, à mon avis, qu'il faut absolument pointer, parce que on se rend compte dans quelles conditions sont faits les jugements et ce que ça peut entraîner après, les conséquences que ça peut avoir. Donc là, on voit dans quelles conditions votre frère s'est retrouvé en prison. Est-ce que pendant ces quelques jours où il a été incarcéré, donc il était en cellule d'arrivant, vous avez eu des nouvelles de lui
Alors c'est sa femme qui a eu des nouvelles à travers la SPIP, qu'il a contacté, qui a contacté ma belle-sœur en lui disant que Alassane allait très très bien, mais qu'il avait froid et qu'il lui fallait des vêtements chauds parce qu'on est au mois de novembre, il commençait à faire très très froid et en prison il fait encore plus froid. Ma belle-sœur a contacté ma mère, elle lui a dit et ma mère avait commencé à préparer des vêtements pour le lui amener. Ce qui a été fait. Quand on regarde la date où les vêtements ont été déposés, Alassane était déjà mort, mais ils ont laissé ma mère aller déposer les vêtements sans lui annoncer que son fils était déjà mort.
Comment vous avez appris la mort d'Alassane ? Parce que là, une fois de plus, on est en train, à travers un cas précis, de parler de ces morts à l'intérieur. Mais souvent, trop souvent, ça se passe exactement comme vous allez nous le dire. Vous avez appris comment ?
Alors, Alassane est mort le 24 novembre matin. On nous l'a annoncé le 25 novembre à 15h. Et là, elle a appelé ma mère. elle lui a demandé à ma mère de venir chez eux et ma mère a tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose. Et après, j'ai une de mes sœurs qui nous a contactées. Nous, on est toutes les deux, on était ensemble. Et là, elle nous a dit, elle croit qu'Alassane est mort. Là, nous, ça a été le choc total. Donc voilà, déjà ils ont laissé un jour et demi avant de nous l'annoncer. C'était, il est décédé un jeudi, on nous l'a annoncé le vendredi à 15h.
À votre avis, pourquoi ils ont pris autant de temps pour vous annoncer la mort d'Alassane ?
Pour maquiller un peu, pour trouver une excuse à ce qui s'est passé, à coup sûr.
Oui, ils se sont laissé le temps de pouvoir organiser un scénario plausible face à la raison qu'ils allaient nous donner comme étant celle de son décès.
Construire
une histoire pour qu'elle soit la plus...
La plus vraie possible, voilà, selon
c'est
eux.
Ça, c'est ça.
Donc ce jour-là, on vous annonce froidement la mort d'Alassane et on va voir comment vous avez tout de suite réagi.
N'est pas coutume, écoutez ça, je me mets à table pour parler des gens en costume, et pour eux je suis infatigable, qu'ils se cachent sous un uniforme ou une robe ornée d'hermine, c'est les protecteurs de la norme, du droit et de la discipline. Comme à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par les juges, qu'ils soient de cour ou instructeurs, c'est de la morale qu'ils s'adjugent. Ils oublient juste, et c'est pas rien, qu'ils avaient prêté allégeance au régime de Vichy ses chiens, qu'ils condamnaient la résistance. Derrière le costard à la brigade planquée, ou sous un étendard, les censeurs sont masqués. J'ai ni les flics ni les gendarmes, garants de la sécurité. Ils ne protègent avec leurs armes que les bourgeois des bons quartiers. Ni le black ni le beurre n'ont grâce aux yeux de leurs valeurs assassines. Commando de racistes en chasse, demande à la famille Ousekine. Derrière le costard à l'abri bien planqué, ou sous un étendard les bourreaux sont masqués. Que dire de nos beaux militaires? Heureusement j'ai pas connu ça. Les tournois de descente de bière, les grandes manœuvres et les paras. Et quand je pense au casque bleu, témoin des massacres au Rwanda, à Sarajevo c'est honteux, tout ça sans lever le petit doigt. Derrière le costard à l'abri bien planqué, sous un étendard les tueurs sont masqués. Et des sermons si instructifs, en louchant sur le gosse diaphane, cringlé mais sans préservatif. Oubliez les bourreaux nazis, ainsi que la filière vaticane. Les millions de morts disent merci, et l'épiscopat en ricane. Pour finir, the last but not least, et un couplet pour les matons. Les derniers rouages de la liste, même pas le droit à la grève, les cons. On dit auxiliaire de justice.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel à l'écoute de l'actualité des luttes. On est avec Djenaba et Ami qui sont les sœurs de Hassan Sangaré qui est mort à l'âge de 36 ans à Fleury-Mérogis. L'administration pénitentiaire parle de suicide. Vous avez fait une enquête. Pour vous, c'est inconcevable et vous essayez de connaître la vérité. Comment votre frère est mort à Fleury-Mérogis? Vous apprenez donc sa mort un jour et demi après les faits et comment vous réagissez immédiatement.
Alors, avant que j'explique comment on a réagi, je vais expliquer juste ce qui s'est passé après qu'on nous ait annoncé son décès, puisque ces policiers en question qui sont venus nous annoncer son décès ont transmis un numéro à ma belle-sœur qui correspondait à la gendarmerie de Fleury-Mérogis. Il fallait les contacter pour la suite. Ce que j'ai fait, je les ai contactés et là, on m'annonce que la personne en charge de l'enquête n'est pas disponible. Donc, je le rappelle, on était un vendredi à 15h. Cette personne n'était pas disponible et qu'il fallait qu'on attende tout un week-end et la rappeler le lundi matin. Donc on nous annonce le décès d'Alassane le vendredi. C'est cette personne qui me dit « Ah oui, vous parlez d'Alassane Sangaré qui est décédé le jeudi 24 ?» Et c'est là qu'on se dit « Ah !» Parce que nous, on pensait qu'il était décédé le jour où on nous l'a annoncé. Là, on apprend qu'il est décédé déjà depuis la veille au matin et qu'en plus, il faut attendre un week-end avant d'avoir peut-être d'autres éléments. Donc nous, on est complètement sous le choc, on ne sait pas quoi faire. On retourne chez ma mère, toutes. Ma belle-sœur, elle reste avec sa famille. Et là, tout de suite, Alassane était très connu. Et nous, on vient de Créteil, on a grandi là-bas, donc on se connaît tous. Et là, ça commence, le bouche à oreille commence à s'étendre. Tout le monde commence à apprendre la mort d'Alassane. Et tout le monde est choqué. Parce qu'Alassane, ce n'est pas un profil à aller en prison. C'est quelqu'un, depuis très jeune, qui était travailleur, etc. Donc les gens commencent à arriver, à nous poser des questions. Et surtout, à nous demander qu'est-ce qui s'est passé. Sauf qu'on n'avait aucune réponse à leur donner parce que nous-mêmes, nous ne savions pas ce qui s'était passé. On nous a juste dit qu'il était mort, c'est tout. Les gens commencent à affluer chez ma mère. Ça vient, mais énormément de monde qu'il faut accueillir. Et plein de questions auxquelles il faut essayer de répondre, tout en sachant que nous, déjà, on est hyper choqués d'apprendre son décès et on n'y croit pas. Nous, c'est aussi un choc pour nous qu'il faut encaisser, on n'y croyait pas du tout. Et voilà, les heures passent, le monde afflue, les gens commencent à nous dire « il ne faut pas que vous laissiez les choses comme ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal ce qu'on vous fait subir, il faut que vous essayiez de bouger. Est-ce que vous ne connaissez pas dans votre entourage des personnes qui ont mené des luttes auxquelles vous pourrez avoir des conseils sur quoi faire pour la suite ? Parce qu'il faut prendre attache avec un avocat, mais il faut prendre un bon avocat, il faut essayer de faire quelque chose parce que ce n'est pas normal, il ne faut pas laisser les choses comme ça. » Et vers 20h, 21h, je me rappelle que je suis la voisine d'Assa Traoré. Voilà. Il fallait un peu de temps pour que je m'en rappelle.
Avec mais toutes les émotions, voilà, c'est normal.
Ça. Et là, quand on me répète ça à force, je me dis « Mais attendez, je suis voisine d'Assa Traoré. » Donc, je vais la contacter. Je passe par une de nos voisines parce qu'on accompagne nos enfants à l'école. Donc, je lui dis « Gisèle, j'ai une urgence. Est-ce que tu peux me donner le numéro d'Assa, s'il te plaît ?» Elle m'a dit « Aucun problème. Tiens, voici. » J'appelle. Le numéro, ça répond pas. Bon, on continue la soirée, on est toujours chez ma mère et elle me rappelle à ça. Je vais essayer de lui resituer. Voilà, je suis ta voisine du 6e, les cheveux courts, etc. Je lui explique. Elle me dit, mais c'est pas possible. Elle me dit, ah, je suis désolée pour ce qui vous arrive. Elle a dit, par contre, il faut que vous bougiez tout de suite. Il faut agir tout de suite. Elle a dit, si je suis vous, je vais devant la prison, je demande des comptes, je demande à voir son corps et à demander ce qui s'est passé et que vous ne bougez pas tant que vous n'avez pas des réponses à vos questions. Et là, elle nous dit ça, je regarde ma montre, il est 23h. Elle me dit, voilà, elle dit, c'est ce que je ferai. Si vous voulez, vous prenez attache avec un des deux avocats, je vous donne les numéros, voilà. Elle dit, envoie un message, il n'y a pas de problème par rapport à l'horaire, envoie un message et il te répondra. Donc, on se dirige vers Bouzrou, je lui envoie un message, et ce qu'on fait, c'est qu'avec une de mes sœurs et deux cousins, on va devant Fleury.
À 23h.
On dit, première fois de ma vie que je vais devant une prison. Il faisait froid. On est allé. On s'est dit, pour Alassane, on ferait tout. Donc, on y est allé. On n'a pas réfléchi. Donc, on se retrouve à minuit devant cette prison. Et là, moi, je me dirige vers l'accueil, toute tremblante, toute timide, parce que j'ai peur. C'est le sentiment que j'ai, la peur. Et je lui dis, voilà, bonjour, on vient de m'annoncer le décès de mon frère. Pour savoir ce que vous pouvez faire. La personne, elle revient, elle me dit, bah, y a personne, il est trop tard, revenez demain matin. Et elle me glisse, mettez-leur la pression, ça marche. Et je lui dis merci, et on part. Et en parallèle, Assa Traoré nous avait dit, faites une page Instagram, mettez n'importe quel nom, mais faites une page Instagram que je vais relayer à fond. Et comme ça, ça vous permettra d'avoir des informations de détenus, parce qu'il faut être à chaud tout de suite. Donc, d'autres de mes sœurs qui étaient restées à la maison, elles ont créé cette page. Nous, on est allés devant la prison. Tout de suite, dès que la page a été créée, qu'elle a tourné, là, on a eu un flot de personnes, de détenus qui nous, comme ils pouvaient. Mmh. Donc, on a eu un flot de messages tout de suite.
Au moins une centaine, franchement.
D'un coup. Mmh. Ouais. D'un coup. Mmh. Ça allait parfois dans tous les sens. Mmh. Mais parfois, on arrivait à avoir quelques petites informations.
Mmh. À reconstruire petit à petit ce qui s'est passé.
Et après, on a pu faire aussi un appel à témoins, un appel aussi à nous soutenir, parce que le lendemain matin, on est reparti devant la prison. À 8h30, on y était. On était un peu plus nombreux. Mmh. Et là, on s'est divisé, on a scindé notre groupe en deux. Moi, je suis repartie avec certains devant la prison pour pareil, en leur disant qu'on ne partirait pas tant qu'on n'aurait pas d'informations, qu'on était là et qu'il fallait, on allait appeler la cité à côté qui était Grigny et qu'ils allaient venir en renfort pour nous aider. Donc là, on leur a dit non, on ne partirons pas tant que nous ne serons pas reçus par l'administration pénitentiaire. On leur demande Alassane, de quoi il serait mort, parce qu'on ne savait pas de quoi il était mort, toujours pas. Et là, il y a une personne qui nous dit, à ce qui paraît, je reprends ces mots tels qu'elle nous les a dit, à ce qui paraît, il se serait suicidé. Et voilà, là c'est le choc. Là.
Ouais, c'est le choc. Et une des personnes qui était avec nous, elle l'a remis en place directement en lui disant, mais comment elle pouvait affirmer ça? Enfin, il y a la famille qui est là. Et qui cherchait à savoir, et que c'était des choses qui ne se disaient pas, surtout quand on n'était pas sûr. On n'affirme pas des choses qu'on ne connaît pas. Et là, elle s'est glissée discrètement à l'intérieur de la prison pour repartir. Un peu aussi pour nous brosser dans le sens du poil. Oui, vous inquiétez pas, on est comme vous, on vous comprend. Ouais, mais ça n'a pas marché du tout.
La couleur ne fait rien à la maçonnerie.
Et le deuxième groupe, lui qui est resté un petit peu en retrait, était chargé d'aller voir, c'était un jour de parloir, c'était un samedi.
Le samedi matin, oui.
Voilà. Donc ces personnes-là sont parties voir les familles de prisonniers pour leur demander si elles pouvaient demander aux détenus s'ils avaient entendu ce jour-là. Parce qu'Alassane était au bâtiment D5 ou D4.
D4,
il me semble. J'ai un petit trou. Et il y avait des familles de plusieurs bâtiments. Ils ont réussi à aller les voir et ces personnes, elles sont formidables parce que tout de suite, c'est un élan de solidarité qui s'est créé aussi autour de nous. Mmh. Il y avait de la curiosité, mais il y avait aussi beaucoup d'empathie envers nous et ces personnes nous ont tout dit. Parce qu'après, en même temps, on avait des témoignages. Il y avait des gens qui disaient, voilà, moi j'ai mon fils ou mon frère dedans, c'est vrai, à chaque fois, soit il se fait tabasser, soit il y a ça. Donc, c'était pas étonnant pour eux qu'Alassane soit mort parce que c'était quelque chose qu'ils entendaient fréquemment via leurs proches. Et ces personnes-là, elles sortaient. Très souvent, c'était ah non, ils ont rien entendu, ils sont pas dans le bon bâtiment, désolé, bon courage, etc. Mais il y a une personne, une famille, c'était une maman avec son mari qui allait voir leur fils. Voilà. Elle est revenue nous voir. Et elle nous a dit, mon fils a entendu des choses. Mmh. Je ne sais pas si elle nous a dit, ne croyez pas au suicide, mais en tout cas...
Si, elle nous l'a dit, c'est pas du tout suicidé.
Voilà.
Après, voilà, elle nous a dit, il y a une altercation dans la cour. Bon, en tout cas,
parce qu'on avait toujours en parallèle aussi les témoignages via notre page Instagram. Donc, plus ça allait, plus s'affinait vers une altercation. Mais de quelle nature, on ne savait pas. Pourquoi, comment, surtout au bout de 5 jours, ça nous semblait assez confus. Mais on savait que ce n'était pas le suicide. Et ça, on était soulagés. Parce que Alassane, on le connaissait. Et c'est vrai que l'administration pénitentiaire a tellement l'habitude de déshumaniser ces personnes-là qu'elle veut tellement mettre le doute dans la tête de ces familles-là que on peut avoir le doute. À un moment donné, on peut être pris par le doute et se dire, peut-être qu'il a craqué. Et pour en revenir à cette journée, là, cette dame avec son mari nous a dit, voilà, mon fils a entendu des choses et ce n'est pas du suicide, c'est une altercation. Laquelle, pourquoi, etc., elle ne savait pas. Et Assa Traoré, en même temps, m'a envoyé un message en me disant, attendez sur place, il y a des gens qui veulent vous voir. Ils ont des choses à vous dire. On les a attendus très longuement parce qu'on avait fini de faire un peu nos enquêtes, etc. On attendait sur le côté ces personnes-là. Elles sont arrivées vers midi. Et elles aussi, elles allaient visiter une personne au sein de la prison. Et il s'avère que cette personne avait une cellule très, très proche de celle d'Alassane. Cette personne a tout entendu. Et là, elle nous a dit, voilà, il y a eu une altercation et il s'est fait frapper à mort. Il s'est fait tabasser à mort. Voilà. Elle a entendu des choses, mais pourquoi, etc. Là, c'était pas encore très précis. Mais en tout cas, on savait qu'il s'était passé quelque chose et que c'était en lien avec une altercation.
reconstituer un dossier, une enquête sur ce qui s'était passé réellement et ne pas se satisfaire évidemment de la version de l'administration pénitentiaire. Aller devant les prisons, parler aux familles. C'est vraiment bien que tu dises qu'on est bien reçu, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de violence à l'intérieur que chaque famille, quelque part, a peur que ça puisse arriver à son proche, ce qui est arrivé à Alassane. Et puis, prendre un avocat combatif, quelqu'un qui ne va pas se laisser rouler dans la farine par l'administration pénitentiaire ou par l'autorité, tout simplement, et qui va chercher, se battre tout au long de la procédure pour la faire aboutir. Et c'est vrai que Bouzrou, c'est quelqu'un qui a pris énormément ce type de dossier en charge et qui connaît pas mal la musique. Exactement. Il sait à la fois les écueils, tout ce que les bâtons dans les roues qu'on peut mettre, que ce soit juridiquement, on va quand même un petit peu en parler. C'est pas simple parce que ça fait 2 ans, des caméras partout. C'est plus pour surveiller les prisonniers que pour connaître la vérité s'il y a un problème, et on va peut-être le voir tout de suite. Puisque, est-ce que vous avez eu accès aux caméras?
Déjà, on a eu du mal à avoir accès au dossier, parce qu'après, on a dû mener aussi d'autres actions pour essayer d'aider notre avocat, finalement, parce que au-delà des témoignages qu'on a eus, après, l'autre difficulté qu'on a eue, c'était que le procureur n'a pas voulu transmettre l'autopsie à notre avocat.
Une autre chose qu'on n'a pas, n'a pas parlé absolument, c'est que vous vous êtes battu pour voir le corps.
Exactement. Oui, on s'est battu parce que l'affaire a été vite classée par la gendarmerie de Fleury. Ils ont classé le décès comme étant un suicide. Ce classement nous a permis de voir le corps d'Alassane. Donc ça, c'était bien parce que ça a été fait 5 jours après son décès. Nous sommes allés le voir au funérarium et on était prêtes. On n'était pas là pour aller pleurer. On était là pour encore prendre des informations et des preuves qui pourront nous servir pour le dossier. Donc nous y sommes allés, ça a été très très dur de le voir allongé et de se rendre compte que c'était lui, parce que comme je l'ai dit au tout début, nous étions aussi dans le déni. Nous, quand ils nous ont annoncé qu'il était mort, moi j'y croyais pas. Parce que déjà, il est parti en prison pour un conflit de voisinage, il en meurt 5 jours après, on nous l'annonce 6 jours allongé, là c'était concret, là c'était lui, il n'y avait plus de doute, mais il fallait garder ses sentiments au fond de soi et être très factuel. Donc on a ouvert la pochette, enfin la poche qui dans laquelle il était, voilà. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos téléphones et on a pris des photos et des vidéos. On a pris tout son corps dans les moindres détails parce qu'on savait, voilà, tout, on a tout minutieusement regardé parce qu'on savait que ça allait être des informations qui allaient nous servir pour après, parce qu'on savait qu'on n'allait pas avoir accès aux images, et que ça allait être des images qui allaient pouvoir contredire la thèse qu'ils nous ont annoncée. Et puis l'une des premières choses qu'on a faites, c'est regarder son cou, parce que quand ils nous ont annoncé suicide, ils nous l'ont annoncé comme un suicide de temps par pendaison. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, il n'y avait aucune trace. Donc c'est encore un soulagement par rapport à ce qu'ils nous avaient dit, mais encore une confirmation qu'on savait qu'on allait devoir mener un combat qui allait être long, dur, parce qu'en face de nous, on avait des gens qui mentaient. Et ça a été confirmé dès qu'on a vu son corps, parce qu'ils nous ont annoncé un suicide, pas d'altercation, alors que son corps présentait des traces d'altercation, justement.
Et des hématomes.
Des hématomes, des traces suspectes. Et on sait qu'il s'est défendu, parce qu'il y a eu des agrafes à des endroits où on sait qu'il était droitier, donc on sait qu'il y a des mouvements de défense. Même si on ne s'y connaît pas, on n'est pas médecin légiste, mais c'est flagrant.
Et ça vous met dans une situation absolument insupportable de devoir filmer le corps de votre frère mort, mais pour pouvoir attester du fait qu'il y avait eu des coups sur son corps et des hématomes, et que ça ne pourrait pas être discuté. Mais c'est quand même une expérience...
Mais je pense que, de toute façon, à ce moment-là, on n'a pas le sentiment d'être triste. On a tellement la rage en nous. On cherche la vérité.
Place au sentiment, pas de place aux peurs. On est là, on a un objectif, c'est ça.
C'est ça, exactement. C'est quand après que ça revient, ça vient. Ça.
Oui.
Mais sur le coup, non. On est combative, on a un objectif. Oui, et c'est tout. Même quand j'écoute ma sœur et qu'elle dise on a regardé son cou, c'est un soulagement, je me dis c'est un truc de fou, en fait, de se dire ça. On a été soulagés de voir ça. Mais il est mort quand même. C'est fou en fait.
Mais c'est important de savoir, ouais, même tu on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission, c'est que c'est important aussi pour les enfants, pour la famille.
Exactement.
De savoir qu'il n'est pas mort par
suicide.
Qu'il ne
les a pas abandonnés, c'est ça.
Parce que le combat, on le fait pour lui, mais finalement, ça nous fait du bien de le faire pour nous. On le fait pour ma mère, on le fait pour ses enfants. Et aujourd'hui, on ne le fait même pas que pour eux, on le fait pour tous les détenus, toutes les familles de victimes qui subissent la même chose et qui n'ont peut-être pas les moyens que nous avons aujourd'hui de mener ce combat.
Parce que c'est un combat long, dur et parfois trop solitaire.
C'est ça, malheureusement. Trop invisibilisé parce que les gens ont peur.
Déjà, à l'extérieur, quand un policier tue quelqu'un, c'est à l'extérieur et le mal que les familles ont ou les collectifs pour démontrer la vérité, à obtenir réparation et être face à finalement l'impunité. Mais là, on est derrière les hauts murs, c'est ce que tu disais.
Ah oui.
Et là, il peut se passer n'importe quoi. Construction d'une histoire, tu disais, et puis rien quoi. Et la difficulté aussi d'avoir des témoignages, parce qu'on en parlait aussi, mais pour les prisonniers qui ont été proches de la cellule d'Alassane, témoigner, c'est forcément se retrouver aussi derrière les murs et peut-être avec des idées de vengeance de la part de l'administration pénitentiaire. Souvent, ces prisonniers sont transférés, donc on perd leurs traces. C'est extrêmement difficile et c'est vrai que c'est important de le faire immédiatement parce qu'on est à chaud, on est choqué et du coup, peut-être les prisonniers interviennent davantage, ont plus envie de parler parce qu'ils ont aussi la rage en eux, la douleur en eux. Et puis après, le temps, les transferts.
Réalité, c'est qu'heureusement qu'on a bougé rapidement parce qu'on a eu tous les témoignages qu'on pouvait avoir tout de suite. Mais aujourd'hui, ces personnes ne sont plus là. Elles ont repris le cours de leur vie et c'est normal. C'est normal parce que c'est aussi traumatisant. Nous, il y avait la femme d'un détenu qui nous avait écrit sur Instagram et c'était un détenu qui était juste à côté de la cellule d'Alassane. Elle nous avait donné le témoignage le plus précis, le plus précis effectivement sur ce qui se serait passé.
Et même, je crois.
Oui, oui, oui. Et ça a été un témoignage déterminant. On les remercie vraiment chaleureusement. Il est sorti quelques jours après et elle disait que son mari, il avait été traumatisé par le décès d'Alassane parce que c'est la première chose dont il lui avait parlé. Et là, aujourd'hui, on n'a plus de nouvelles, mais j'imagine le traumatisme aussi que ça doit être pour ces gens-là qui ont vu quelqu'un quelques heures avant et ils entendent crier, ils vont me tuer, ils vont me tuer. Et ça résonne dans la tête. Hein. C'est dur pour eux. Et,
c'est la peur aussi qui se diffuse à l'intérieur de la prison parce qu'on sait qu'après, ça peut être soi. Quoi.
Exactement.
Donc, souvent, les témoignages des prisonniers qui expliquent ce qui a été le plus dur pour eux, c'est souvent le fait d'avoir entendu des co-détenus se faire frapper, de les avoir entendus gémir.
C'est ça, oui. Et pousser leur dernier souffle, c'est terrible.
On va faire une petite pause et après, on parlera justement de où on en est aujourd'hui, hein, parce que deux ans après, où en est l'instruction, les difficultés que vous avez, du point de vue, en tous les cas, de la justice, de faire entendre la vérité, en sachant, et on en parlait ensemble, que même si la justice, parce qu'on sait ce que c'est souvent, en plus quand ça met en cause l'autorité, hein, c'est-à-dire la police ou des matons, on connaît un peu l'issue trop souvent, même si ça ne doit pas empêcher de mener le combat, c'est souvent l'impunité. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Man made the car to take us over the road. Man make the trains to carry the heavy load. Man makes the electric lights to take us
out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Now listen, man thinks about little bitty baby girls and baby boys. Man makes them happy, 'cause man, he makes them toys. And after man has made everything, everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. But this is a man, a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Lost in the world of a man. Oh yeah. And he's lost, lost in bitterness. This is a man, this is a man's world. Oh yeah. This is a man's world. Nothing without a woman or a girl. This is a man's world. This is a man. This is a man's world. I know and you know this is a man's world. This is a man. Nothing without a woman or a girl.
Toujours sur l'actualité des luttes, et on a trop de choses à dire, donc on coupe le morceau, hein, parce que ça passe trop trop vite, d'où l'intérêt d'avoir aussi du temps pour pouvoir raconter, expliquer. Donc, ce que je disais, 2 ans, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans?
Alors, depuis 2 ans, on a mené plusieurs actions. On a participé à des marches contre les violences policières, à des discussions, des groupes de parole, parce que c'est important que ça soit un combat collectif. Ça ne doit pas être que le nôtre, mais quelque chose qui doit être porté par tous et en priorité par la politique, parce que les élus doivent aussi se saisir de ces questions-là. Et donc voilà, beaucoup, beaucoup de choses en 2 ans, mais judiciairement, malheureusement, pas beaucoup d'avancées. On a un juge d'instruction qui a été désigné sur notre dossier. Ma mère et nous-mêmes le dossier, qu'elle a été censée envoyer des éléments complémentaires qui avaient été demandés par le premier juge et versés dans le dossier. Donc notre avocat lui a demandé de lui envoyer. Et dernièrement, notre avocat nous a fait un retour en disant que les éléments correspondaient à des choses que nous avions déjà dans le dossier, qu'il a déjà en sa main, en sa possession. Donc donc là actuellement il est en pleine relance, etc. Et nous on essaye de notre côté de maintenir via nos réseaux sociaux, de faire des choses pour leur montrer qu'on ne lâche pas, on continue, même si c'est compliqué, même si c'est dur. Nous serons là, nous ne lâcherons rien tant que nous n'aurons pas des réponses et la vérité sur ce qui s'est passé le 24 novembre 2022 à Fleury-Mérogis.
Tout de suite, vous avez essayé de rencontrer d'autres familles, des collectifs, pas rester seul. Ça aussi, c'est vachement important.
Hyper important, tout en sachant que tout ce qui concerne la prison, c'est compliqué parce que les familles, il y a beaucoup de familles hein, qui ont quand même commencé des combats, mais qui s'essoufflent parce que c'est vrai que c'est dur psychologiquement, physiquement et financièrement. Même nous, heureusement qu'on est porté par plein de gens, on a plein de soutiens qui nous aident pour essayer de faire vivre ce combat. Mais on comprend qu'il y a des familles qui n'y arrivent pas. Donc on a rencontré notamment M. Salah Zawiya qui lui a apporté un combat pour son fils Jawad en 1996, qui est mort à Bouardarsi. Il a obtenu gain de cause en 2006, donc imaginez-vous 20 ans après. On est aussi en lien avec d'autres familles. Il y a Théo Sanha aussi qui a été décédé à Fresnes. Et puis aussi la sœur de Sambali Djabaté à La Rochelle, avec qui nous sommes en contact. Et pareil, qui a mené le combat et qui a obtenu gain de cause et qui a fait condamner les surveillants qui ont été à l'origine du décès de son frère. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de familles. On est plus en lien avec des familles de victimes de violences policières parce qu'elles sont mieux organisées, elles ne sont pas plus nombreuses parce que je pense que pour les violences carcérales, il y en a beaucoup, mais les moyens ne sont pas les mêmes.
Peut-être que c'est moins connu aussi, oui. La prison, ça reste un peu un tabou, comme des oubliettes modernes. C'est-à-dire, on veut pas y mettre le nez, quoi. C'est un peu trop flippant. C'est l'aboutissement de la répression. Et puis, bon, on va pas trop regarder. Mais c'est important, justement, qu'il y ait des familles comme les vôtres qui continuent à mener des combats pour ouvrir aussi au-delà de la mort, mais aussi sur les conditions de détention, les raisons pour lesquelles les gens vont en prison, la longueur des peines, l'isolement et l'institution même de Exactement. La prison qu'il faut interroger sur sa réalité et puis même le fait qu'elle existe, à quoi elle sert, à qui elle sert, enfin toutes ces choses-là absolument primordiales. C'est un combat, vous le menez. Il est absolument indispensable d'ouvrir cette porte-là et de ne pas laisser les prisonniers seuls derrière les hauts murs et que ça peut les amener jusqu'à la mort, comme le cas de votre frère. On voulait aussi parler de cette initiative parce qu'il se trouve que le 1er février, là, la semaine prochaine, il y a une initiative, c'est à Corbeil-Essonnes et c'est une porte de plus pour essayer de comprendre, voir ce qui se passe à l'intérieur de la détention. Vous nous en parlez un petit peu ?
Alors oui, comme vous le disiez, le 1er février, il y a une initiative à Corbeil-Essonnes. Et comme je le disais, heureusement que nous sommes portés par des personnes, des collectifs, par des gens qui ont envie de nous soutenir. Et justement, cette initiative est co-organisée par le GRA 91.
Alors 91. Le GRA, t'es obligé de dire ce que ça veut dire.
Voilà, c'est un groupe antifa pour nous faire cette proposition, nous disant, voilà, on connaît votre combat, on vous soutient et on a envie de vous aider. On veut organiser pour vous cette journée contre les violences policières le 1er février à Corbeil-Essonnes.
Carcéral.
Ah, voilà.
Oui, ah, tu vois, avoir. Là, ouais.
Même moi, je me fais avoir. Donc, le 1er février, une journée contre les violences carcérales à Corbeil-Essonnes en soutien au comité Vérité pour Alassane. Donc, nous sommes extrêmement reconnaissante pour ce qu'ils font. Merci à eux. C'est une journée de discussion sur les violences carcérales, les solutions que nous pouvons apporter face à toute cette répression qu'il y a aussi actuellement auprès d'autres peuples aussi, comme la Palestine, les Kanakis. Donc c'est en co-organisation avec le GRA 91, comme je le disais, mais il y a aussi d'autres collectifs qui seront présents, comme Samidoun, Désarmons-les, Fasti, Solidaire. Il y a vraiment beaucoup d'organisations et nous vous attendons très nombreux à partir de 15h jusqu'à plus de 20h parce que c'est de 15h à 18h des discussions, c'est suivi après d'un repas et une soirée rap.
Je vais vous donner le nom de la rue, alors tenez-vous bien parce que c'est hyper compliqué, c'est 15 avenue Strat-Kelvin. Je pense qu'on peut retrouver de toute manière l'adresse et cette initiative, que ce soit sur Paris Lutte Info ou sur l'agenda militant indépendant, où bah, voilà, vous pourrez aller le 1er février. C'est plutôt rare hein, qu'on parle de la prison, donc n'hésitez pas, c'est important. Hein, d'avoir et puis surtout d'avoir le point de vue des familles. Et ce qui est intéressant aussi dans cette initiative, c'est qu'à la fois il y a cette histoire d'Alassane, et puis aussi faire le lien entre les prisonniers qui meurent comme ça dans des conditions particulièrement suspectes. Bizarre, oui. Et puis aussi des prisonniers qui se retrouvent enfermés pour des raisons politiques, mais aussi des prisonniers qui se retrouvent pour des raisons, on dit de droit commun, des prisonniers sociaux, et de parler de la prison en général comme arme de destruction massive hein, quand même, puisque on sait que c'est essentiellement les pauvres qui y vont et que c'est aussi un instrument qui nous fait tous peur et qui nous fait marcher droit. Et pour ceux qui veulent pas marcher droit, elle reste là, bien présente, pour nous détruire. Parce que aller en prison, c'est quand même, on le voit pour le cas d'Alassane, mais pour la plupart qui ont été faire un tour, c'est toujours très, très destructeur. Je rappelle, 1er février, Corbeil-Essonne, c'est de 15h à 23h, hein, on
c'est
a dit.
Ça.
Et avec toute l'après-midi, des discussions prise en charge par à la fois votre collectif,
exactement,
mais aussi d'autres associations qui s'intéressent à la question de la prison et des prisonniers. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit que vous avez envie de rajouter ? Il nous reste quelques minutes.
On aimerait partager notre page. N'hésitez pas à nous suivre sur la page
absolument.
Instagram.
Alors, il faut aller où ?
Pour Alassane Sangaré.
Vous serez bienvenue. Aussi présente sur Facebook, sur
Twitter,
X, oui. Snap.
Tous les réseaux
voilà,
sociaux.
Tout. Et vous, suivez-nous, apportez-nous de la force, on en a besoin.
On vous attend parce nombreux que c'est, aussi c'est le 1er février.
Voilà. Ouais, carrément. C'est important, c'est vrai, on n'en a pas tellement parlé de la question des réseaux sociaux, mais ça tourne beaucoup à l'intérieur.
Oui.
C'est impressionnant de voir le nombre d'images, de photos, de prisonniers qui témoignent, ou pas toujours à bon escient, mais enfin bon, tant pis, hein, sur les réseaux sociaux. Et quand même, ça a été un moyen pour vous de faire connaître cette histoire et d'avoir des retours, des témoignages de personnes qui ont pu connaître l'histoire d'Alassane par le biais des réseaux sociaux. Bon, il y a à boire et à manger, mais il y a aussi
c'est ça.
De
heureusement
temps
que ça existe,
temps,
hein, parce
des
que...
choses importantes. Ouais. Et puis qui arrive à traverser les hauts murs, comme la radio d'ailleurs. C'est pour ça qu'on continue à faire de la radio sur la FM, puisque ça permet aussi pour les prisonniers de nous entendre sans être censurés. Hein, parce
c'est
que
vrai, c'est important.
L'information, ça a du mal aussi à passer à l'intérieur dans les deux sens. Parce que aussi c'est pas facile pour les prisonniers d'écrire des lettres. Enfin, elles passent par la censure. Mmh. D'avoir une activité, tout simplement de témoignage ou même d'opinion à l'intérieur de la détention.
Oui. Sinon, on invite aussi toutes les familles qui n'auraient peut-être pas, je dirais pas le courage ou qui sont peut-être réticents à mener un combat, de le faire. Ça vaut la peine, il vaut vraiment la peine d'être fait et de rendre hommage à nos défunts. Nous, Alassane, c'était notre seul frère, on est 4 filles, donc le seul fils à ma mère. Et pourtant, on n'est que des femmes, mais on y arrive. Hein. Et le domaine de la prison, c'est très très dur. Mais aujourd'hui, on a tellement de témoignages de sympathie, de détenus, d'hommes qui nous disent merci parce que vous le faites plus que pour Alassane, mais vous le faites pour nous. Ils nous remercient. C'est des gens même parfois plus âgés que nous. Ça nous fait chaud au cœur parce qu'on se dit, voilà, on fait des choses par utilité. Et même aujourd'hui, notre combat, il est plus que pour la prison. On aide aussi des sans-papiers. On est là pour lutter contre toutes les discriminations.
En fait, quand on est confronté à ce genre d'histoire, à la fois c'est terrible. Et en même temps, ça, d'un seul coup, ça ouvre la conscience politique.
Exactement.
Hein, et ça...
C'est un déclic.
C'est un déclic, clairement. En fait, que vous n'auriez pas eu.
C'est ça. On a trouvé un sens à notre vie. Hein, c'est ce qu'on dit souvent. C'est terrible parce que c'est à travers le décès d'Alassane qu'on a eu ce déclic-là. Sinon, on aurait continué notre petite vie métro, boulot, dodo. Et aujourd'hui, non. Parce qu'il y a des générations futures. Il faut qu'on construise, on leur construise un avenir meilleur pour nous, les jeunes... je veux dire racisé, parce que mais c'est nous qui sommes touchés, malheureusement. C'est une réalité.
Oui, oui et non, parce que là, je vois dans les listes de prisonniers morts à l'intérieur, il y avait Éric Blaise, il y a Romain Leroy, il y a Sambali aussi, et il y a Jules. Donc en fait, ça touche. Je pense qu'il faut vraiment ouvrir cette lutte contre la violence,
contre
la prison. Et peu importe qui ça touche, on doit être tous ensemble pour se battre contre cette réalité. Ben merci vraiment beaucoup d'être venu dans nos studios, c'est super.
Merci
et
à
puis
vous
on
pour
essaiera
l'invitation
d'être là aussi. Pour le premier.
On vous
février.
Attend nombreux. Hein,
bah ouais. Bah carrément, c'est suffisamment rare pour vraiment se déplacer. Merci beaucoup.
Merci à vous. À vous.
Je vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Vous écoutez l'actualité des luttes
comme tous les jours du lundi au vendredi
de 12h30 à 13h30
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
Et l'actualité des luttes, c'est aussi en rediffusion du lundi au vendredi de 6h30 à 7h30.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits. Avec nos petites idées, dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement.